France Inter, franceinter.com.
13h et bientôt 30 minutes sur France Inter. Bonjour Patrice Gélinet.
Bonjour Laetitia Gaillet.
Pour 2000 ans d'histoire aujourd'hui, on va direction le Tibet.
Oui, et d'ailleurs on vous entendra à la fin de l'émission dans une des archives que nous avons choisies. Nous allons parler aujourd'hui du 7 octobre 1950, l'invasion du Tibet. Le Tibet et la Chine se maintiendront dans leurs frontières présentes. Il n'y aura ni guerre, ni saisie de territoire de part et d'autre. Traité signé entre le Tibet et la Chine en 822. Deux mille ans d'histoire. Le 7 octobre 1950, quelque part au pied de l'Himalaya, 40 000 soldats de l'armée populaire chinoise partaient à l'assaut du Tibet sans provoquer la moindre réaction de la communauté internationale. Au moment où commençait la guerre froide et quelques mois à peine après que Mao Tse-tung ait pris la tête du pays le plus peuplé du monde, le sort de quelques centaines de milliers de Tibétains n'avait pas assez d'importance pour mobiliser les journalistes. Et c'est devant un seul témoin étranger, un opérateur radio anglais, Robert Fort, que les 6e et 18e armées du général Chute franchissaient sans difficulté la frontière du Tibet, tandis qu'à Lhasa, prévenu par Robert Fort, le gouvernement tibétain annonçait la nouvelle au 14e Dalai Lama.
Votre Sainteté.
Oui.
Les Chinois nous ont envahis.
Les Chinois ont franchi le fleuve en 6 endroits autour de Chando.
Il y a eu des tués?
L'opérateur radio a parlé d'un mort et puis il a ajouté « Les soldats chinois sont là, à nos portes. » Et ensuite, plus rien.
Cette semaine a débuté la libération pacifique du Tibet. Des éléments de l'armée populaire de libération ont pénétré dans cette région occidentale de la Chine à la demande des populations locales. Dans ce bastion de l'impérialisme, les Tibétains vivaient depuis longtemps dans un royaume féodal sous la tyrannie du Dalai Lama.
Claude Levenson, bonjour.
Bonjour.
C'était un extrait du film Kundun, le premier jour d'une occupation chinoise qui dure maintenant depuis 58 ans, une libération même, comme disait sans rire la radio de Pékin. En tout cas, un événement dont on parle plus que jamais en ce moment à l'approche des Jeux Olympiques. Mais à l'époque, et vous le rappelez dans un livre, Tibet, la question qui dérange, publié chez Albin Michel, à l'époque, en revanche, personne ne s'y est intéressé, peu de gens savaient ce qui se passait. La question dérangeait déjà Claude Levenson.
Elle dérangeait déjà probablement, mais pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la question dérangeait simplement à l'époque parce que les communications n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Il y avait peu de nouvelles qui venaient de si loin. En dehors de Robert Ford, il n'y avait pas de télégraphe fonctionnant au Tibet. Et puis, il ne faut pas oublier le contexte général de l'époque, 1950. L'Europe se relevait de la Deuxième Guerre mondiale. Mao venait effectivement de prendre le pouvoir. Il y avait la guerre de Corée.
Qui venait de commencer en juin.
Elle venait de commencer. Donc, il y avait déjà des enjeux politiques beaucoup plus important aux yeux des pays occidentaux et du reste du monde. L'Inde venait à peine de recouvrer sa souveraineté, son indépendance. Il y avait les problèmes de la partition. Et le Tibet était tellement loin de toutes les préoccupations de n'importe qui, en fait de tout le monde, que ce qui se passait là-bas, au cœur de l'Himalaya, dans la Haute-Asie, effectivement, a fait très peu de vagues.
Il y a un seul pays, on se demande pourquoi, le Salvador, qui à l'ONU protestent contre cette invasion, à l'invasion d'un pays indépendant. L'ONU aurait pu s'en préoccuper. Il est indépendant depuis 1912. Et puis même, on l'a lu, on l'a entendu au début, il y a même eu un traité entre le roi de Chine et le roi du Tibet, parce qu'il n'y avait pas encore de Dalai Lama, qui garantissait leurs frontières respectives. Et ça, c'était en 822, à l'époque de Charlemagne.
Oui, mais c'était une époque où le Tibet était un grand empire, au cœur de l'Asie, et ses guerriers étaient aussi redoutables que redoutés. Et le roi du Tibet a mis le siège de la capitale de l'Empire céleste, du Fils du Ciel, qui a été obligé, pour bien montrer qu'il fallait s'entendre entre voisins, a été contraint de donner une princesse chinoise en mariage à un roi tibétain. Donc c'était ce qu'on a appelé beaucoup plus tard un mariage d'État à État, d'égal à égal.
Et c'était plus de 11 siècles avant que le Tibet soit envahi par les Chinois. Une invasion donc qui suscite, on l'a dit, l'indifférence, ou pire encore, certains accréditent en Occident à l'époque la justification que donnait la Chine de son invasion en affirmant qu'elle venait libérer les Tibétains du système féodal dans lequel ils se trouvaient. On écoute Han Suyin, puis Alexandra David-Neil en 1954, mais d'abord Han Suyin parlant du Tibet avant l'invasion chinoise.
C'était le 7e siècle. Et ceux qui parlent avec regret de ces grandes cérémonies mystiques, je dois quelquefois leur demander s'ils aimeraient, eux, vivre au 7e siècle avec une inquisition terrible, avec des tortures épouvantables, avec 93% de la terre appartenant à 626 personnes et le reste de la population, donc à peu près 95%, étant des serfs et des esclaves. Ce qui était au Tibet, il n'y avait pas de droits humains.
Alexandra David-Neil.
L'on s'est beaucoup mépris en Europe, et certainement aussi en Amérique, sur ce qui s'est passé au Tibet et sur ce qui s'y passe actuellement. Les journaux nous ont annoncé l'invasion du Tibet par les Chinois. Et ce terme « invasion » a tout de suite suscité des idées de populations fuyantes en proie à la terreur, des idées de massacre, et que sais-je. En tout cas, ces invasions ont évoqué l'idée d'une catastrophe. Eh bien, il n'y a eu aucune catastrophe. Ce qui s'est passé au Tibet, et ce n'est que la répétition d'événements du même genre, qui se sont produits maintes et maintes fois depuis que cette immense étendue de territoire que nous appelons Tibet a commencé à être habitée.
Étonnant ce que l'on vient d'entendre dans la bouche d'Alexandra David-Neil, qui est la première femme à avoir atteint Lhasa, cette extraordinaire exploratrice qui connaissait bien le Tibet et qui parle de l'invasion chinoise comme d'une espèce de péripétie, Claude Levinson.
Je pense qu'à l'époque, en 1950, il était bien difficile d'imaginer ce qui pouvait se passer au Tibet et ailleurs, avec un pouvoir communiste aussi dur et aussi implacable, en fait, que s'est révélé être le gouvernement communiste chinois, le gouvernement maoïste. C'est vrai qu'il y a eu, comme toujours entre voisins, une invasion d'un côté comme de l'autre, des relations de bon ou de mauvais voisinage selon les époques. Mais il était probablement très difficile pour Alexandra David-Neil et pour beaucoup d'autres de se rendre compte de ce que pouvait représenter comme menace pour la civilisation tibétaine la véritable menace, le véritable danger que s'est révélé être le régime chinois pour la civilisation tibétaine.
Oui, alors pour Han Suyin, qu'on a entendu, ça c'était un peu plus tard, en 76, elle, c'était même un bienfait, l'invasion, parce qu'elle mettait fin à un système féodal.
Oui, peut-être, ça c'est Han Suyin qui le dit. Ce que j'aimerais peut-être rappeler, et qui vaut son pesant de mots, dirais-je, c'est qu'au moment...
Elle admirait beaucoup Mao Tse-tung.
Oui, on est bien d'accord, mais c'est qu'au moment de l'invasion du Tibet, en 1950, la radio chinoise annonçait la libération de l'impérialisme étranger. La libération du servage et du féodalisme, chose fort curieuse, n'est entrée en ligne de mire et comme outil de propagande qu'à partir du départ du Dalai Lama en 1959. Donc il y a eu changement de ton, changement de propagande, et on ne parlait plus de l'influence de l'impérialisme étranger qui aurait joué un rôle et tiré les rênes au Tibet. Et tout à coup, on met en avant le servage et le féodalisme. La question qu'on peut aussi se poser, quel était l'état de la Chine au moment où Mao Tse-tung a pris les affaires en main ?
Ah, il prend les affaires en main, envahir le Tibet, imposer au Tibet tout de suite des conditions de paix qui sont vraiment imposées, ce qu'on appelait l'accord en 17 points.
Oui, et à ce propos aussi, puisque officiellement, d'après le régime chinois, le Tibet fait partie de la Chine, quelle est la nécessité de faire un traité particulier avec un pays qui est une province de l'Empire ? Déjà cela, il y a un paradoxe. Les 17 points, c'est un accord qui a été imposé par la contrainte à des émissaires du Dalai Lama convoqués à Pékin pour tenter...
En 1951,
pour tenter de parvenir à une solution à l'amiable, qui a été imposée sans que ces émissaires puissent être en contact avec le gouvernement de Lhasa et avec des sceaux qui se sont révélés finalement falsifiés. Donc c'est un traité inégal, bien entendu, comme le dénonce par ailleurs le régime chinois à juste titre par rapport à d'autres pays et à ce que la Chine a pu souffrir comme humiliation. Ce n'est pas une raison pour le régime chinois d'humilier de la sorte un pays voisin et de lui mettre le grappin dessus.
Alors, un régime chinois qui ménage au début de son occupation et qui ménage encore la religion bouddhiste et même d'ailleurs les institutions, le Dalai Lama reste en place. Il est même accueilli chaleureusement à Pékin par Mao Tse-tung en 1954.
Après 6 mois passés à Pékin, le Dalai Lama a fait, selon la mode de son pays, ses adieux aux autorités chinoises avant de regagner le Tibet. Son séjour auprès de Mao Tse-tung a permis de donner vie au nouveau statut du Tibet, qui devient une province dotée d'une certaine autonomie.
Votre séjour a-t-il été bon ?
Fort intéressant. Vos usines sont très impressionnantes. Et j'ai beaucoup aimé...
Vous avez beaucoup de choses à apprendre. Sachez que je vous comprends. Mais je dois vous apprendre autre chose. La religion est un poison. Un poison. Un poison qui affaiblit la race. Comme une drogue, elle obscurcit l'esprit des populations, de la société. Elle est l'opium du peuple. Le Tibet a été empoisonné par la religion. Et votre peuple est empoisonné et inférieur. Inférieur.
La religion est un poison et votre peuple est inférieur. C'est exactement, c'est un extrait de Kundun, mais c'est exactement ce que Mao Tse-tung aurait dit au Dalai Lama à l'issue de sa visite à Pékin, Claude Levenson.
Oui. N'oublions quand même pas que le Dalai Lama, à l'époque, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui.
C'était il avait 19 ans, je crois.
Non, il avait moins. À peu près 18-19 ans. Il venait d'être investi d'un pouvoir qu'il aurait dû prendre à 18 ans et qui lui a été octroyé à 16 ans. Il se trouvait face à une espèce de montagne politique qui avait derrière lui déjà la longue marche et qui prenait en charge un pays immense. Et il ne connaissait rien du monde extérieur. Il avait été élevé et éduqué pour sa charge de Dalai Lama, pour diriger un pays qui était resté hors du monde et qui était resté ce qu'il était parce qu'il était aussi un peu au-dessus du monde, vu son... l'altitude et vu les conditions géographiques. Donc, il était en train de découvrir véritablement le monde au-delà de l'Himalaya et au-delà de son propre pays.
Et il va découvrir, en venant dans son pays, les débuts d'une répression anti-religieuse qui va être considérable. Au total, je crois qu'en 20 ans, Claude Levenson, 6000 monastères ont disparu.
Oui, c'est qu'il y a eu aussi le passage dévastateur de la révolution culturelle qui a fait énormément de dégâts. Non seulement les monastères ont disparu, mais toute une partie de la mémoire est partie en fumée. Les bibliothèques ont été brûlées, les sculptures, toutes les richesses du pays ont été détruites ou partiellement amenées à Pékin, revendues, fondues, les statues en or fondues. Bref, tout un patrimoine a complètement disparu. Et cela, les Tibétains le ressentent encore aujourd'hui très profondément parce que ce n'est pas seulement l'histoire, c'est tout l'art, c'est une manière d'être, c'est une manière de voir le monde qui a été simplement rayé de la carte.
Et puis un Tibet qui a été coupé en deux. On l'a évoqué, on a entendu dans cette archive, le Tibet devient une région autonome, mais la moitié du Tibet. Vous le rappelez, en fait, cette région autonome du Tibet, c'est 1 120 000 km², alors que le Tibet historique en faisait 2,5 millions, c'est-à-dire 5 fois la France. Et 5 400 000 Tibétains vivent actuellement en Chine, dans la partie annexée littéralement par les Chinois. 2 700 000 seulement dans l'actuel Tibet autonome, entre guillemets.
Voilà, exactement. Donc déjà, le pays en tant que tel est en voie de disparition, si l'on veut. Et les Tibétains ressentent très vivement la présence chinoise à preuve. Si récemment, il y a eu ce qui s'est passé au Tibet, si les protestations ont démarré le 10 mars dans la région autonome à Lhasa, ce que à peu près personne n'attendait s'est passé, c'est-à-dire que cette flamme de la révolte a aussitôt quasiment embrasé comme une traînée de poudre toutes les régions tibétaines qui se trouvent noyées en quelque sorte dans la population chinoise, dans les provinces chinoises où se trouvent des enclaves tibétaines, des préfectures ou des comtés, soi-disant autonomes, mais bien enserrées dans la masse chinoise.
Et alors un Tibet dont le Dalai Lama est parti en 1959 pour s'installer en exil où il se trouve encore en Inde, à Dharamsala, ce qui va provoquer de grandes manifestations. Il est rejoint par une partie d'une diaspora tibétaine qui a dû fuir le Tibet. Et puis alors, un Tibet extérieur, enfin un Tibet dont le Dalai Lama est à la tête d'un gouvernement provisoire, d'un gouvernement en exil qu'il a installé à Dharamsala, et qui ne croyait plus guère en 1986 à la possibilité de l'indépendance de son pays, à la veille d'une révolte des moines tibétains. Écoutez le rire quand on lui demandait en 1986 s'il croyait encore à l'indépendance de son pays.
Est-ce que vous croyez vraiment que l'armée chinoise va s'en aller?
Non, c'est clair que les Chinois veulent rester. Tout le montre à l'évidence. Le plus important est la force de volonté humaine.
France Inter, Alain Bédoué, le 5 octobre 1987.
Bruit de bottes sous le toit du monde, la Chine envoie des renforts militaires au Tibet et lance un ultimatum aux séparatistes alors que les moines tibétains réclament l'indépendance. Explication de Fabrice Le Quintrec.
Les Chinois dirigent notre pays par la violence, c'est ce qu'expliquent les nationalistes tibétains. Nous souffrons, ajoutent-ils, nous supplions l'ONU et tous les pays du monde de soutenir notre juste cause. Cet appel pathétique a été lancé, il vient du toit du monde, reste à savoir s'il sera entendu. Depuis 37 ans, presque jour pour jour, le régime de Pékin occupe militairement le Tibet dans l'indifférence générale. Les 2 millions de Tibétains totalement démunis d'armes, sinon de courage, risquent de ne pas peser très lourd face aux 100 000 soldats chinois si la situation s'envenime.
Les oubliés du toit du monde nous appellent à chaque seconde et leurs chants se heurtent en silence au vacarme de l'inconscience. C'est la voix d'un peuple brisé, de ces moines martyrisés qui nous offrent en un seul regard des milliers de vies de mémoire. C'était hier, c'était ailleurs, on disait plus jamais l'horreur. C'est là tout près, c'est maintenant, et je pleure pour tous ces gens. Nous gardons la blessure au cœur du chagrin des peuples qui meurent par la force ou par la violence, en perdant jusqu'à l'espérance. Cette lignée, si elle s'éteint avec le dernier Tibétain, laisserait pour l'éternité tant de portes à jamais fermées.
Yves Duteil, la Tibétaine. À partir de quand, Claude Levenson, la communauté internationale a-t-elle commencé à prendre le parti, en tout cas à s'intéresser au Tibet? On a vu qu'en 1950, son invasion n'avait fait l'objet d'aucune espèce de réaction. Et là, avec ces chansons, avec cette mobilisation que l'on voit d'ailleurs depuis de nombreuses années, on voit bien que cette cause des Tibétains intéresse, mobilise l'opinion internationale. Depuis quand?
Je crois que ce qui a joué un rôle important, ça a été le prix Nobel de 89. Auparavant, déjà, le Dalai Lama s'est acquis une réputation, s'est fait des amis. Il a été reconnu pour ce qu'il est, d'abord un maître de sagesse. Un certain nombre d'Occidentaux s'y sont intéressés. Les centres d'études bouddhistes ont essaimé un peu à travers le monde grâce à la présence de quelques grands maîtres de sagesse qui ont pu quitter le Tibet avec lui et qui ont commencé à enseigner petit à petit en s'attirant des sympathies. Je crois aussi que ce qui a joué un rôle important, c'est la constitution sans tapage d'un réseau de solidarité pour venir en aide aux réfugiés tibétains. Et puis, il y a eu quand même les révoltes tibétaines qui se sont succédées en 87, en 88, notamment en 88, en présence de nombreux touristes étrangers, puisque le Tibet avait été ouvert au tourisme, qui ont témoigné de ce qu'ils ont vu, de la brutalité de la répression et de ce qui se passait véritablement sur le toit du monde. Et puis, il y a eu la déclaration de la loi martiale imposée par Hu Jintao, qui était à l'époque gouverneur du Tibet, en mars 89, justement parce qu'il craignait des protestations liées à la commémoration du soulèvement de 59 et donc du départ du Dalai Lama. La loi martiale est imposée à Lhasa quelques mois avant les événements de Tiananmen. Et la loi martiale n'a été levée au Tibet qu'en 90, bien longtemps après qu'elle n'ait été levée en Chine proprement dit. Le prix Nobel de la paix octroyé au Dalai Lama en 89 pour son combat non violent pour la cause de son peuple. Et là, si vous voulez, je crois qu'il y a eu une espèce d'ouverture. Les responsables des affaires, les responsables politiques et les décideurs politiques, tout à coup, ont vu s'ouvrir une petite porte leur permettant d'approcher ce personnage qui était en train de se construire sur la scène internationale, qui intriguait.
Oui.
Qui a intrigué et qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et donc, maintenant qu'il y avait, si vous voulez, l'honorabilité de la reconnaissance du jury Nobel, il devenait plus facile de le rencontrer sous prétexte de rencontrer le guide spirituel, sans prendre position sur le fond du problème. Alors, qui est un problème politique.
Oui, mais qui est un problème politique sur lequel il a évolué. Il ne réclame plus l'indépendance, mais l'autonomie
absolument.
Du Tibet. Mais alors,
pourquoi ?
Dans des conditions difficiles, parce que il y a une chose qui s'est produite depuis le début, depuis l'arrivée des Chinois en 1950, mais surtout à partir des années 70, c'est la colonisation, la sinisation du Tibet.
Absolument.
Avec cette chose très concrète qui a été, il y a quelques mois, l'inauguration du train reliant la Chine à Lhasa. Mais c'est un pays colonisé dans lequel les Chinois pourraient devenir un jour plus nombreux que les
Absolument.
Tibétains.
Alors, je crois que le Dalai Lama, qui espérait quand même une autre réponse, peut-être, il ne connaissait pas très bien le monde et comment fonctionnait et fonctionne encore le monde politique. Les Tibétains ont toujours cru que, vu la justesse de leur cause et le déni de justice dont souffrait leur peuple, eh bien, il pouvait y avoir un mouvement international capable de faire en sorte que ce déni de justice soit reconnu et que véritablement les Tibétains puissent acquérir, recevoir ce qui était leur dû, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination. Par la force des choses, à partir du moment où il a commencé à voyager à travers le monde dans les années 70, il s'est rendu compte de ce que représentait le rapport des forces politiques et économiques dans le monde. Et il s'est rendu compte, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement lucide, que compter sur l'opinion internationale ou sur la communauté internationale n'avançait pas vraiment les choses. Donc, plutôt l'autonomie pour préserver, conserver et aller plus loin avec la culture et la civilisation tibétaine, au prix même de rester dans les frontières de la Chine et accélérer un développement technique, technologique du Tibet, à condition, à condition toutefois que ce soit les Tibétains qui aient voix au chapitre et qui décident eux-mêmes du rythme qu'ils souhaitent adopter.
Alors les Tibétains qui ont profité des Jeux Olympiques, de la perspective des Jeux Olympiques justement pour manifester leur volonté au moins d'autonomie, c'était il y a quelques semaines, 5 mois donc avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. France Inter, Laetitia Gaillet, le 15 mars 2008.
France Inter. C'est une histoire vieille de 2000 ans qui oppose la Chine et le Tibet. Mais à 5 mois de l'hypermédiatisation des Jeux Olympiques, c'est un conflit qui dérange en Chine et qui se réprime dans le sang. Ce matin, le Dalai Lama s'est exprimé de Dharamsala en Inde, où le siège du gouvernement tibétain est exilé. Le chef spirituel des Tibétains en a appelé à la communauté internationale.
Please investigate by yourself.
S'il vous plaît, enquêtez vous-même. Peut-être à travers une organisation respectée. Tout d'abord sur la situation au Tibet et aussi sur les causes de cette situation. Enquêtez et demandez-vous qui a créé ou commencé ce problème. Enquêtez.
Enquêter, bien les Chinois l'ont fait, viennent même d'ailleurs de condamner hier 30 manifestants tibétains à des peines allant de 3 ans de prison à la détention à perpétuité. Comment peut-on expliquer, Claude Levinson, l'acharnement avec lequel les Chinois veulent se maintenir au Tibet, malgré les condamnations internationales, malgré les manifestations au Tibet même? Pourquoi cette obstination à vouloir y rester? Quelle est l'importance à leurs yeux du Tibet?
Bon, je crois que d'abord, on va tout de suite avancer la question la plus rapide, ne pas perdre la face. Mais derrière cela, l'espace vital pour une surpopulation, un effondrement démographique en fait de la Chine, dans la mesure où il n'y a pas assez de place pour autant de Chinois. Château d'eau de l'Asie, espace vital, mais aussi les richesses. Le Tibet est riche, contrairement à ce que l'on croyait. Les plus grandes mines d'uranium se trouvent au Tibet. De l'or, de l'argent, du lithium, du pétrole même au Tibet. Donc aujourd'hui, c'est exploitable au prix de sacrifice. Mais c'est exploitable, c'est-à-dire que c'est la maison des richesses de l'Ouest qui permettent aussi à la Chine de continuer sa croissance effrénée. Le Dalai Lama demande non pas seulement une enquête chinoise, mais une enquête internationale et indépendante, parce que il est évident que le régime chinois n'a aujourd'hui aucun intérêt à ce que des étrangers aillent mettre leur nez dans ce qui se passe aujourd'hui au Tibet.
Je reviens sur une des causes, parce que vous insistez beaucoup dans vos livres sur le château d'eau de l'Asie. Vous le rappelez, c'est absolument sidérant quand on s'en rend compte que c'est du Tibet que partent tous les grands fleuves d'Asie qui irriguent tous les grands pays asiatiques, non seulement la Chine, mais le Pakistan, l'Inde, tout le Cambodge,
le Vietnam, la Birmanie.
De la Thaïlande. Autrement dit, la moitié de la population de la planète, ça veut dire grosso modo que tenir le Tibet, c'est tenir l'Asie. C'est
absolument
peut-être la principale raison.
Oui, sans oublier d'ailleurs une raison très importante qui est la raison stratégique. Quand on est sur le haut plateau tibétain, on domine véritablement à 3600, 4000 mètres d'altitude, on domine réellement toute l'Asie. Et y placer des rampes de lancement, c'est bien tentant pour un régime qui, dit-on, a encore certaines visées sur d'autres pays.
Comment peut-on imaginer que 6 millions de Tibétains puissent tenir tête comme ça à 1,3 milliard de Chinois, Claude Levinson ?
C'est la grande question, probablement. Mais je pense qu'il y a tout un passé, il y a toute une histoire. Les Tibétains ne sont pas des Chinois et ils ne veulent pas devenir chinois, ils veulent garder leur altérité, préserver ce qui peut encore l'être pour partager avec le reste du monde. Et je pense que l'espoir reste pour eux. Et l'espoir, c'est peut-être le grain de sable qui finalement fait capoter les plans les mieux programmés.
Merci Claude Evenson. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de vos livres et notamment Tibet, la question qui dérange, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel, et puis Le Tibet dans la collection Que sais-je aux presses universitaires de France. À lire également Le Tibet, une civilisation blessée de Françoise Pomaret chez Gallimard Découverte. Vous avez pu entendre des extraits du remarquable film de Martin Scorsese, Kundun, disponible chez Pathé Vidéo, ainsi qu'une archive Pathé de 1955 éditée chez Montparnasse Vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Jean-Noël Vélan et Bertrand Durand, documentation et archives sonores Emmanuel Fournier, Anne-Cécile Perrin, Claire Destacan, Caroline Chausset et Lise Montédonion, une réalisation de Marie Casanova. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la mort de Pierre Bérégovoy, c'était le 1er mai 1993, il y aura demain 15 ans.